Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, sur les 6 jours de la création, il nous reste à voir la création des animaux et surtout celle de l'homme. Sur la création des animaux, c'est-à-dire les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel, et puis tous les animaux de la terre, les auteurs ne disent pas grand-chose, si ce n'est qu'ils sont dans l'admiration de l'œuvre de Dieu, du fait que Dieu bénit les animaux en leur disant « Croissez et multipliez-vous ». Oui, mes bien chers frères, Dieu bénit les animaux. Il suffit de lire les récits entomologiques, c'est-à-dire sur les insectes, les études sur les insectes, de Fabre, Henri Fabre, dont je vous recommande vivement la lecture, c'est une vraie merveille. Quand on pense, par exemple, qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines, d'espèces d'abeilles qui vont chercher leur nourriture, et celle que j'ai un peu plus étudiée, se dirige avec le soleil, et qui, lorsqu'elle rentre, indique la direction de la nourriture en volant et en faisant des huit, tout en volant dans la ruche. L'inclinaison du huit par rapport à la verticale indique la direction. Mais bien chers frères, le soleil tourne pendant qu'elles sont parties et qu'elles sont revenues. Et par conséquent, elles tiennent compte de cela et elles font tourner leur huit de manière à ce que leurs camarades abeilles reçoivent la bonne information sur la direction. Elles indiquent la distance de la nourriture par la rapidité de leur vol en faisant le huit. Et chose plus merveilleuse, lorsqu'elles ont dû contourner une colline, la distance est évidemment rallongée d'autant, mais elles donnent la distance en ligne droite. Et leurs camarades abeilles vont de même tenir compte de cette distance, raccourcie par conséquent, et la rallonger tout naturellement en contournant la colline. Je ne vais pas vous en dire plus, malgré l'intérêt de la chose, si ce n'est que par exemple le spex, qu'on dit être une guêpe mais qui n'en est pas une, étudié par Henri Fabre, met ses œufs et donc ses larves au bout d'un petit élastique, de manière à ce que la larve soit au-dessus de la nourriture qui a été endormie mais non pas tuée, c'est une proie qui a été endormie mais non pas tuée, et le petit élastique sert à la larve pour dévorer la proie tout en demeurant hors d'atteinte. Vous avez une autre guêpe qui part à des kilomètres chercher la nourriture, après avoir soigneusement refermé la porte de sa maison, une petite ouverture qui fait la taille d'une guêpe, c'est pas épais une taille de guêpe. Elle a remis du sable, et lorsqu'après sa course de plusieurs kilomètres elle revient, elle n'a absolument pas besoin de quoi que ce soit pour retrouver exactement l'entrée de sa maison. Henri Fabre a essayé de voir quel repère elle avait, il a été incapable de discerner quoi que ce soit qui permette à la guêpe de retrouver son chez-soi. Pourquoi le bon Dieu a-t-il fait cela? Pour rien, parce que c'est beau, parce que c'est gratuit. Certes, il a fait le chien, le cheval, pour être des auxiliaires de l'homme. Cela est utile. Mais pourquoi a-t-il fait les multitudes de chevaux qui courent à travers les steppes, les multitudes de guêpes? Tout cela pour nous apprendre à ne pas toujours chercher l'utilité. mais au contraire à découvrir la grandeur de Dieu, sa bonté gratuite, même envers de toutes petites guêpes. Tout homme normal, en constatant ces merveilles, remonte jusqu'au Créateur et se dit qu'il est beau le bon Dieu, qu'il est bon le bon Dieu. Quand vous priez le bon Dieu, mes bien chers frères, il faut ne pas seulement lui demander ce dont vous avez besoin. Il faut aussi passer du temps avec lui parce qu'il est beau, parce qu'il est bon. Pour rien, comme cela, pour être avec lui, parce qu'on l'aime. Si nous étions dans un monde américain, et hélas, avec le capitalisme, nous sommes dans un monde américain, le monde de la rentabilité, nous nous poserions la question, qu'est-ce que cela m'apporte de prier Dieu? Quel profit vais-je en retirer? Quel est l'intérêt pour moi? Cela, c'est le monde moderne. Mais nous, nous sortons du monde moderne, nous sommes dans un monde de beauté et nous passons du temps avec Dieu simplement pour être avec lui, parce qu'il est beau, parce qu'il est bon. Mes chers amis, retrouvez l'enthousiasme de votre première communion. Ce jour-là, vous ne pensiez pas, j'en suis sûr, à l'intérêt que vous pourriez retirer de cette intime communion avec le bon Dieu. Vous étiez tout à lui. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Voilà ce que Dieu dit dans le Cantique des Cantiques. Et puis, je ne puis m'empêcher de vous parler une nouvelle fois des œuvres de miséricorde. Car la miséricorde, c'est de faire du bien, de répandre le bien à profusion. Quoi de plus misérable qu'une pauvre petite abeille qui risque de mourir de faim, et le bon Dieu lui donne une compagne pour lui indiquer où est la nourriture. Brave compagne qui ne pense pas qu'à soi, qui ne garde pas la nourriture uniquement pour soi, mais qui communique tout cela à toute la ruche. Mes enfants, vous les plus jeunes qui m'écoutez, sachez rendre service rien que pour la joie de rendre service. Sachez faire plaisir rien que pour la joie de faire plaisir. La miséricorde est gratuite. Après avoir béni les animaux, et il est évident que si le bon Dieu bénit les animaux, à bien plus forte raison il va bénir l'homme, il va plus que le bénir, il va dire « Maintenant, faisons l'homme à notre image. » Et vous remarquez, mes bien chers frères, que là, le bon Dieu change de formule. Jusqu'à maintenant, il a dit « Que ceci soit fait, que cela soit fait. » Tandis que là, le bon Dieu va parler à quelqu'un. À qui? Ben à son Fils, bien entendu. Parce que le Fils de Dieu est l'image de la perfection de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture sainte. Le Verbe de Dieu est l'image du Dieu invisible, engendré avant toute créature. Et le prologue de saint Jean vous dit que c'est en lui que toute chose a été faite, c'est-à-dire que le Fils de Dieu a été le modèle et que l'homme a été créé à son image, à l'image du Fils de Dieu qui s'est incarné après, mais nous verrons cela plus tard, qui s'est incarné et qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Cela signifie que Adam et Ève, après cela, ont été créés en état de grâce. Il n'y a que l'homme, évidemment, qui a été créé à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit cela pour les anges? Tout d'abord parce que la Genèse, les six jours de la création, ne décrivent pas particulièrement la création des anges. Et puis parce que les anges, étant de purs esprits, sont évidemment plus à l'image de Dieu. Et puis pour une troisième raison, c'est que Dieu va charger l'homme de dominer la terre, et c'est surtout là qu'il sera l'image de Dieu, et cela il ne l'a pas demandé aux anges, Dieu. Dieu a demandé aux anges d'être ces adorateurs gratuits, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais cela, nous en parlerons dans le prochain sermon. Mais bien, chers frères, est-ce dans son corps ou dans son esprit que l'homme est à l'image de Dieu? Évidemment, ce n'est pas dans son corps, parce que Dieu n'a pas de corps. C'est donc dans son esprit, ce qu'on appelle l'homme intérieur, l'esprit qui est capable de connaître Dieu, même si c'est derrière un voile, parce que nous ne le voyons pas directement encore ici-bas, il faudra attendre d'être au ciel. Mais nous sommes capables de connaître Dieu. Nous sommes capables de connaître beaucoup de choses sur Dieu. Nous sommes même capables, parce qu'il nous a fait à son image justement et qu'il nous a donné la grâce, nous sommes même capables de savoir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous sommes capables de savoir que le Fils est à l'image du Père. Et nous sommes capables de savoir que le Saint-Esprit est l'amour mutuel commun du Père et du Fils. Et nous sommes capables d'aimer Dieu. D'aimer Dieu non pas pour nous, mais pour lui. D'aimer gratuitement Dieu. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il nous fait savoir, à l'évidence, que nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Nous ne sommes évidemment pas comme les quadrupèdes, mais nous ne sommes même pas comme les singes ou comme les chimpanzés. Certes, nous avons un corps qui est notre serviteur, qui est le serviteur de l'homme intérieur, qui est le serviteur de notre esprit. N'allez jamais dire, mes bien chers frères, que notre corps soit une prison pour l'âme. C'est faux, ça. Le bon Dieu n'a jamais emprisonné personne, surtout pas le jour de la création. Cette histoire d'homme emprisonné dans un corps, comme le croient les hindous par exemple, ou des hérétiques comme les manichéens, ce sont des choses inventées par le démon pour rabaisser l'homme, pour le désespérer. Non, Dieu crée un esprit, l'homme est d'abord un esprit, il crée un esprit, et il va lui donner une mission particulière sur la terre, nous allons voir ça dans le prochain sermon. Il va lui donner une mission particulière sur la terre. Cette mission va être à la ressemblance de la providence divine. Et pour accomplir cette mission, il lui donne un corps, qui va être son serviteur à l'homme. Et il lui donne une multitude d'animaux, une multitude de fleurs, de plantes. Il lui donne la terre entière, tout simplement. La terre entière est au service de l'homme pour faire régner Dieu dans la création. Alors n'allez pas faire comme les écologistes qui divinisent la création, non. Tout ce qui est créé n'est que serviteur de l'homme qui lui-même est serviteur de Dieu. Mais il y a une différence. Toute la création n'est que pur serviteur, tandis que l'homme, lui, est l'objet d'une providence particulière de Dieu, parce que Dieu en fait un serviteur à son image. Eh bien, mes bien chers frères, que faisons-nous lorsque nous courons après les créatures pour en jouir personnellement et non pas pour les mettre au service de Dieu? Que faisons-nous, mes bien chers frères, lorsque nous prenons un soin exagéré de notre corps, que nous le faisons passer avant notre âme, et que notre esprit devient esclave de notre corps, par la gourmandise, par la paresse, par l'impureté, par des films qui nous trempent dans le monde au lieu de nous tremper en Dieu. Mais aucun film ne peut nous tremper en Dieu, si je puis dire. Eh bien, comme les yeux sont les fenêtres de l'âme, cela veut dire que la fausse lumière du monde pénètre dans notre âme et que nous cessons alors d'être à l'image de Dieu pour être à l'image du monde et du démon. Et à ce moment-là, le pécheur est deux fois à l'image du démon. Une première, parce qu'il est souillé par lui, et une deuxième, l'homme ressemble au démon qui détruit l'œuvre de Dieu, et par conséquent il est à l'image du démon par ses mauvaises actions. Heureusement, lorsque Dieu constata que l'homme était tombé dans le péché, il envoya son Fils pour nous refaire à l'image de Dieu. Voyez saint Paul, par exemple. Il persécutait Jésus-Christ dans son Église, c'est-à-dire qu'il persécutait l'image de Dieu. Il détruisait la grâce dans l'âme des chrétiens. Il voulait en faire des apostats. Il s'était fait le serviteur du démon pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est vous dire s'il était devenu à l'image du démon. Eh bien, Dieu se montre à lui, il lui montre sa grandeur, sa splendeur et surtout la splendeur de sa miséricorde. Jésus le crucifié se montre à lui. Et saint Paul alors retrouve dans son âme l'image de Dieu, et non seulement il la retrouve dans son âme, mais il va la retrouver dans son action. Et quand on voit saint Paul, on voit Dieu à l'œuvre pour sauver les hommes. De même pour tous les apôtres, de même pour tous les bons chrétiens. Je m'adresse plus particulièrement aux jeunes, aux enfants et aux jeunes qui ont leur vie devant eux. Mes chers amis, vous voulez faire plaisir au bon Dieu? Eh bien, soyez comme son image, c'est-à-dire comme Jésus-Christ, et sauvez des âmes. Si vous ne sauvez pas des âmes, par la croix, bien sûr, si vous ne portez pas en vous la croix, comme Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ, alors vous perdrez l'image de Dieu. Et si, hélas, ce qu'à Dieu ne plaise, vous vous mettiez à perdre des âmes, à perdre votre âme et à perdre d'autres âmes en étant des scandales causes de péché, à ce moment-là, vous seriez à l'image du diable. L'image de Dieu resplendit particulièrement dans la très sainte Vierge. Contemplez-la dans les mystères du rosaire. Dites votre rosaire chaque jour si vous pouvez. Et beaucoup mieux que mon pauvre sermon, vous comprendrez ce que Dieu veut vous faire comprendre. Je résume ce sermon de manière à ce qu'il vous soit plus facile de le retenir. Nous avons commencé en parlant de la bénédiction de Dieu sur les animaux, et cela nous a permis de voir qu'il est important d'avoir le sens du gratuit et de ne pas chercher l'utilité. Nous avons vu ensuite que Dieu fait l'homme à son image, et cette image, c'est celle du Fils de Dieu, le Verbe éternel. Et nous avons vu, hélas, que l'homme peut perdre cette image par le péché, mais que, heureusement, il peut la retrouver par Jésus-Christ, par la rédemption, par Jésus-Christ en croix. Mais alors, cette image, tout en étant la même, est renouvelée en ce que l'homme racheté ressemble à Jésus crucifié et pas seulement au Verbe éternel de Dieu. Et lorsque nous arriverons au ciel, car j'espère bien, mes bien chers frères, que nous arriverons tous au ciel, nous garderons cette marque particulière, c'est-à-dire que non seulement nous ressemblerons à Dieu en son Verbe, mais nous ressemblerons à Jésus-Christ crucifié, et cette croix que nous aurons portée avec lui sera glorieuse, comme Jésus-Christ est glorieux avec les blessures de ses mains, de ses pieds et de son côté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.